la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres me transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonjour à tous, bienvenue pour la 55e édition de Par le bout de la lorgnette, une émission spéciale environnement, biodiversité, parce que ça nous tient à cœur. Valérie est là, salut Valérie.
Et salut.
Oh là là, tu satures là.
Ah, tu voulais que je parle près du micro, te voilà servi.
Et ouais, mais voilà, dès qu'il y a l'émission Los Actuali que je passe derrière, si je ne fais pas attention, c'est du grand n'importe quoi. Vas-y, reparle.
Et salut.
Ah, c'est mieux là.
Merci. Est-ce que tu veux que je refasse un test micro avec et salut.
Non, c'est bon, c'est super. Parfait. Et c'est étrange parce que tu partages le même micro qu'un de nos chroniqueurs qui s'appelle Eric.
C'est vrai. Et
vous n'avez pas du tout la même sensibilité de voix, la même tonalité, ben, le même volume. Tu cries plus fort.
C'est peut-être parce que lui est un homme et moi une femme. Et le fait de crier plus fort, c'est la loi de la nature. La loi de la biodiversité dont on va parler.
C'est exactement ça, Valérie. Merci. Salut, Popo.
Salut tout le monde.
Voilà, tu vois la professionnelle ?
C'est ça.
Ça coule tout seul, ça marche.
Non, son micro est mieux réglé.
Pas du tout.
Mais elle est aussi professionnelle.
Pas du tout. Ça va, Popo ?
Ça va très bien, merci.
Et Louise, qu'on a entendu en début d'émission, je ne sais pas pourquoi, qui a dit salut, alors on le redit, ça va ?
Bonjour.
Bon, alors, environnement, biodiversité, c'est bien, on l'avait pas fait, ce thème encore. On va pouvoir le travailler.
Oui, et c'est important, je trouve, effectivement, on aurait dû le faire plus tôt.
Voilà, il y a plein de livres sur le sujet, plein de livres différents.
Oui, pour enfants, pour adultes, romancés, BD, enfin, il y a plein de choses qui existent.
Bon, super. Tu vas commencer cette émission. Valérie voulait que tu parles d'Astérix. C'est ça, Valérie ?
Oui, alors le lien avec la biodiversité, on va peut-être la chercher loin. Si, peut-être que les sangliers doivent être une espèce totalement impossible à détruire vu la quantité qu'Obélix mange. Mais il paraît que cet album, c'est la revanche des gros.
Alors, je l'ai lu, c'est la Transitalique, ça s'appelle. Et donc, c'est Obélix qui veut, en fait, devenir un grand conducteur de char et qui va participer à une course qui ressemble beaucoup au Tour de France. Enfin, il y a plein de références comme ça. Une course en Italie, en fait. Et tous les peuples s'affrontent, etc. César veut que le Romain gagne. Enfin, voilà. Et c'est une histoire assez classique et c'est chouette. On retrouve les origines d'Astérix. Moi, je me suis bien marrée. Voilà.
Voilà, pour tous les fans, n'hésitez pas. Ça y est, tu l'as, hein, tu...
Oui, c'était la sortie, c'était le 19 octobre et j'en ai eu pas mal, il m'en reste encore.
Bon, parfait.
Il y a un banquet à la fin, on peut spoiler.
Bah allez, oui, il y a un banquet.
Tu l'as pas lu, arrête. Ouais.
Non, je ne lis pas de BD moi, tu sais bien.
Bien sûr.
Je lis que des livres intellectuels.
Que des livres pop-up.
Pop-up, c'est plus facile. Bon alors, biodiversité, environnement, qu'est-ce que tu nous présentes, Héloïse ?
Oui, alors... J'aimerais commencer par un livre qui me tient vraiment à cœur et pour cause, c'est grâce à lui qu'on fait cette émission aujourd'hui. C'est un livre que j'ai lu cet été et qui m'a vraiment sensibilisée et qui m'a vraiment touchée sur le sujet. Et c'est ce qui a amené en fait plein d'autres lectures et, enfin pour ma part en tout cas sur ce sujet-là. C'est un livre qui s'appelle Lettre au dernier grand pingouin de Jean-Luc Porquet. Jean-Luc Porquet, c'est un journaliste qui travaille notamment pour le Canard Enchaîné, où il écrit des critiques technologiques sur l'écologie, la mondialisation marchande, etc. Donc la structure du livre en lui-même n'est pas sans rappeler en fait ce travail de journaliste, parce que c'est une succession en fait de chapitres assez courts qui ressembleraient à des chroniques ou à des articles, ce qui donne un rythme assez rapide et assez entraînant en fait de lecture. Donc il évoque, comme l'indique le titre, déjà l'histoire de ce grand pingouin. Pingouin qui n'existe plus, qui a été éteint en 1844, j'en parlerai plus tard. Et ne pas confondre du coup les manchots et les pingouins, parce que bon, il existe encore un type de pingouin, c'est le petit pingouin, qui est aussi en voie de disparition. Mais voilà, ne pas confondre avec le manchot empereur, etc. Donc, ce grand pingouin, donc on en apprend beaucoup sur ce qu'était son mode de vie. Voilà, il y a pas mal d'anecdotes historiques et scientifiques, en fait, où on apprend à connaître cet oiseau assez fabuleux qui ne volait pas, qui était assez gras et empoté. Et sur Terre, il avait un peu de mal à se déplacer. Par contre, dans l'eau, c'était un vrai artiste de la voltige. Et du coup, voilà, il s'est éteint aussi à cause de ça, parce qu'il était un peu gros, un peu gras, et il était facile à chasser, en fait, à tuer. On le tuait notamment pour ses plumes, en fait, pour en faire des chapeaux. Et son gras aussi, comme nourriture sur les bateaux, c'était très nourrissant.
D'accord, et en plus, il était chassé par des animaux également, j'imagine.
Alors par oui, il était chassé par des animaux, mais bon, ça n'a rien à voir avec son extinction, évidemment.
Ah oui,
enfin,
oui,
c'est à cause de l'homme, clairement.
Comme toujours.
Et de la chasse abusive. Et du coup, voilà, c'est quand même un animal qui existait depuis 3 millions d'années et qui apparaît sur des peintures rupestres. Enfin, voilà, c'est un animal qui avait son importance. Donc, comme beaucoup d'animaux, il a disparu, il a été rayé de la carte. Et les derniers spécimens furent exterminés le 3 juin 1844 sur l'île d'Edley, près de l'Islande, par des pêcheurs. Donc, c'était un couple qui venait nidifier. Évidemment, bon, il ne restait qu'un seul couple, donc l'espèce était déjà condamnée. Mais bon, ils les ont quand même tués.
Et, c'est triste.
Maintenant, le mâle se trouve donc empaillé à Los Angeles et la femelle à Bruxelles, si vous voulez les voir. Voilà, les derniers de leur espèce.
Ils les ont séparés en plus ?
En plus, ils les ont séparés. Ouais, je trouve ça assez triste.
Ah ben, complètement, oui.
Enfin, ils sont morts, hein, donc.
Voilà.
Et alors ? On ne sépare pas les gens qui s'aiment, même dans la mort. On pourrait faire une chanson, ça.
Oui, genre, il y a trop de gens qui
s'aiment. Non, c'est pas du tout ça. Ça va me revenir, mais c'est des paroles d'une chanson.
Donc du coup, on se demande, dis-moi hein, quand tu as retrouvé le nom de la chanson.
D'accord, je crois que c'est Florent Pagny ou Stéphane Escher, ouais. Je ne sais pas.
Ah, c'est pas pareil.
C'est pas pareil, mais c'est un débat. Ça va me revenir.
Donc voilà, en lisant ces pages, on peut que se questionner, de se demander mais de quel droit l'homme a exterminé en quelques années une espèce qui était là mais depuis tellement plus longtemps que lui. Et on ne cessera au cours de ce livre en fait, de se poser des questions utiles. Parce que bon, ce livre parle du grand pingouin, mais il parle aussi de tout un tas d'autres sujets en rapport avec le monde animal, la biodiversité, la sixième extinction des espèces qui est en marche à cause de nous. Il faut savoir que la dernière extinction des espèces, c'était au temps des dinosaures, à cause d'une météorite qui était tombée. Voilà, donc homme, météorite, tout comme. Donc voilà, ce sont les réflexions de l'auteur, les recherches de l'auteur, ses expériences et ses doutes aussi. Parce que c'est pas un livre où il se met pas martel en tête, il va pas nous dire il faut faire ci, il faut faire ça, c'est dramatique, on peut rien faire. Il explique, mais il a aussi des doutes. Par exemple, quand il parle du cochon, le cochon, il faut savoir que c'est une des espèces animales les plus sensibles et au niveau du ressenti et des sentiments, il se rapproche beaucoup en fait de l'homme par rapport à son cerveau. Donc il ressent les choses à peu près de façon similaire à nous. Et donc, il a été prouvé que les porcs, avant d'aller à l'abattoir, ils souffrent d'une manière mais inimaginable. Enfin, ils ont peur comme nous, ils sont tristes comme nous, etc.
C'est bizarre, ça nous touche moins, ça.
Oui. Hein
ouais, parce qu'on imagine la saucisse après, tu vois.
C'est ça.
Hein, c'est une roulette de porc au barbecue, Héloïse.
Non, mais c'est...
Est-ce
voilà.
que ça vaut pas cette petite larme
vient... Non. Donc, suite à ces mots-là qui nous font... Enfin, moi, ça m'a fait réfléchir. Et lui, il oppose la réaction que nous tous avons et que vous avez eue directement, c'est-à-dire le fait qu'on n'a pas envie d'arrêter de manger du porc, quoi. Voilà. Et donc, il impose pas des choses. Il a des réflexions, en fait, comme nous tous. Et il pose des vraies questions. Donc, c'est pas un livre radical. Ensuite, voilà, bah j'ai bientôt fini. Donc c'est pas un livre prise de tête. Il est vraiment facile à lire et à comprendre. Pour moi, il fait partie des livres assez indispensables que tout le monde devrait lire parce que la plupart d'entre nous, je pense, ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer par notre faute. Et si les gens étaient plus informés, j'espère, enfin, je pense qu'ils réagiraient, en fait. Et ça, c'est une bonne manière de s'informer parce que ça, il va tout en douceur. Ça se lit facilement. Et voilà, c'est intéressant et c'est une source fiable aussi, comme c'est quand même un journaliste, un scientifique. Voilà.
Ben, ça donne envie. Tu nous rappelles le titre, alors, l'auteur, la maison d'édition ?
Ça s'appelle « Lettre au dernier pingouin » de Jean-Luc Porquet aux éditions Verticales.
Merci. Ok, merci. Ben, on va continuer de s'informer dans cette émission. Qui veut nous informer ? Popo ?
Ouais.
Allez, vas-y. Bon.
Alors, ben, je ne vais pas commencer par celui que j'avais prévu. Finalement, je vais partir sur une BD. qui s'appelle La biodiversité, expliquée par Huber Reeves et dessinée par Cassav. Alors, moi, j'ai été étonnée parce que c'est une...
Et Moussé Gogo. Oui, vas-y, je la fais avant.
Je crois que si ça m'a fait quelque chose. Pardon. Désolée, monsieur Cassav.
Alors, Huber Reeves, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un astrophysicien. Je n'ai pas noté la nationalité, mais il me semble américain. Ou
canadien.
Canadien. Voilà, qui fait beaucoup dans la vulgarisation scientifique. Bon, j'aime pas trop le terme vulgarisation, je trouve ça un peu moche, mais pour le coup, c'est ça qu'il fait. Il rend les sciences accessibles à tous. Et donc là, avec le Lombard et avec donc cet illustrateur, ils ont lancé, ils ont sorti le premier tome de cette BD qui, j'imagine, va avoir une suite. Qui est une BD qui explique aux jeunes, aux enfants, je pense qu'on peut le lire assez tôt, à des 8-9 ans, je pense que ça passe très bien, qui explique ce que c'est la biodiversité. Donc on suit une classe qui est accompagnée donc par Huber Reeves, qui va se balader, je pense, quelque part proche de la Lozère, donc c'était, puisqu'ils passent à Millau, ils vont manger de l'aligot, voilà, c'est assez rigolo en plus. Et ils font des arrêts pendant lesquels ils abordent tous les grands sujets de la biodiversité. Donc, par exemple, en s'arrêtant au viaduc de Millau, ils débattent sur d'où viennent les matériaux. Ils vont observer des animaux et dire, bah voilà, parler du cycle animal. Ils vont parler des hydrocarbures. Ils abordent énormément de sujets, plein de mots que les jeunes entendent tous les jours aux infos, à la radio, qui disent sûrement sans savoir trop de quoi il s'agit, et ils les expliquent. C'est vraiment très simple, on comprend très bien le cycle de l'animal, par exemple le cycle d'un animal qui va être perturbé. Ils donnent l'exemple alors d'une loutre. Suite à la surpêche, le poisson qu'elle chasse, évidemment, diminue. Donc la loutre commence à disparaître. Voilà, toutes ces chaînes qui existent, tout un tas de petites choses. C'est pas une grosse BD, hein, c'est une BD assez mince, enfin de taille classique. Et on aborde de plein de sujets, et c'est très accessible pour les enfants. Ça a un petit côté, moi je trouvais, je sais pas si vous vous rappelez, d'Il était une fois la vie. Voilà, ce vieux barbu qui amène son école, et puis il leur explique plein de choses. Puis bon, il parle d'événements qui se sont réellement passés. Il donne des exemples d'une chasse au loup à Yellowstone qui a favorisé le développement du caribou, puisque n'ayant plus de loup, plus de prédateurs pour le caribou, du coup le caribou se développe. Et là, on n'a plus de développement de nouveaux arbres, puisque le caribou mange toutes les jeunes pousses d'arbres. Enfin, c'est intéressant, et c'est un peu comme toi, c'est que c'est pas trop orienté. Il nous dit pas, bon ben, il faut arrêter de chasser le loup, il faut continuer à chasser le loup. Voilà, il donne souvent les deux aspects du problème. Voilà, il dit pas qu'il y a des solutions simples. Il aborde juste les problèmes et de façon intéressante. Et je pense que ça a tout à fait sa place dans les écoles. Déjà, je pense que ça, c'est une BD. Voilà, n'hésitez pas, mettez-la dans toutes les écoles. Les élèves seront curieux. Voilà, ils apprendront des mots qu'ils entendent tout le temps. Et pour en parler avec vos enfants, je pense que c'est une chouette BD. Les dessins sont sympas, en plus les couleurs sont vives, et c'est pas alarmiste. Donc c'est plutôt agréable d'entendre un discours qui soit posé et mesuré, et qui cherche juste à expliquer, sans foutre la trouille, quoi. Ça, c'est bien pour les enfants, je pense. Donc bonne BD, très sympa.
Ok, super, merci Popo. Ben ouais, ça a l'air intéressant. Donc ça s'intitule La biodiversité, Huber Reeves, aux éditions...
Chez Le Lombard.
Chez Le Lombard, ok, super. On passe du Lombard à la Loubard.
N'est-ce pas?
Elle est là.
Et Pauline parlait d'un livre qui ne foutait pas la trouille. Moi, je vais vous parler un peu du Pennywise des livres. Ah. C'est-à-dire le livre...
J'aurais aimé que tu me parles du Pennyline plutôt. Mais...
Non, ça sera le Pennywise. Ça fout moi la trouille. Voilà. Ouais. Du livre qui fout la trouille, mais que tu as quand même envie de lire parce que tu sais qu'il va être bien. Voilà. Ah. Donc mon livre, c'est Animaux disparus, histoire et archives photographiques, dont Errol Fuller, et non pas Errol Führer. Lui, on est bien content qu'il ait disparu. Voilà, donc c'est un livre sur...
Qu'est-ce qu'elle travaille bien, ces intros.
T'as vu ça, voilà. Et ouais. Je viens de l'improviser à l'instant.
Oui, parce que c'était pas écrit.
Avez-vous déjà vu un pivert à bec d'ivoire?
Non, car il a disparu pigeon migrateur. 1958.
Attention, il y a peut-être un piège dans mes questions. Un pigeon migrateur?
Oui.
Ah oui, non. Moi j'aurais dit que oui.
Eh bien non. Une grande chauve-souris à queue courte?
Non.
Un tétras de bruyère?
Ah, ça sûr que non.
Non.
Ouais, pourtant le tétras existe, mais il pas existe. De bruyère. Et la perruche du paradis?
Ça, j'ai vu.
Alors, tu es né avant les années 1959.
Absolument.
D'accord, donc c'est bon. Errol Fuller raconte l'histoire de ces espèces, de leur extinction et de leur dernière prise de vue. En fait, il a fait, donc c'est un
livre.
Une personne voilà, qui a fait un livre, c'est le concept de l'émission.
C'est très bien,
voilà.
On part bien là.
C'est déjà un bon début. Et dans ce livre, alors, la couverture, elle est hyper sombre parce que c'est vraiment une photographie ancienne. Donc, elle donne pas forcément envie
d'ouvrir. Moi, justement, elle me donne envie d'ouvrir.
Oui, mais toi, tu as des goûts bizarres.
Ça fait un peu parchemin, avec marqué animaux disparus, un genre de loup zébré.
C'est un diable de Tasmanie. Celui-là, je ne sais plus. Non, je crois que c'est un CY quelque chose. Mais on m'a piqué le livre des mains, donc je ne peux plus te le dire.
Ah, pardon, je vais te le donner, mais je regarde.
Non, c'est pas grave, je le fais en impro. Donc, mais garde-le, c'est bon, je n'ai pas de notes, de toute façon, sur ce...
Ouais, je pensais que t'étais.
Et en fait, c'est un auteur, Errol Fuller, qui a fait beaucoup, enfin, qui doit être traumatisé comme on peut l'être quand on prépare ce genre d'émission sur la biodiversité, les animaux qui ont disparu. Il a écrit essentiellement sur les dodos, sur les oiseaux éteints, sur les anciens, justement, tout à l'heure, je parlais des perruches du paradis. Voilà. Et il a fait des livres là-dessus, les dinosaures, un peu Darwin et compagnie. Le livre en question, il y en a peu qui ont été traduits en français, donc je pense que celui-là, c'est peut-être le premier même qui atterrit dans une librairie écrit en français. Donc là, il va présenter tout un tas d'espèces, en fait, où les représentations de ces espèces qui sont éteintes aujourd'hui sont uniquement des photographies. Souvent, on parle des animaux éteints anciens, on pense aux dinosaures, on pense à d'autres animaux, et on en a des représentations dessinées. Là, c'est vraiment des photos, donc c'est d'autant plus perturbant que la photo, c'est pas très très vieux, et on se dit mince, déjà disparu. Donc chaque fois, il y a quelques petites photos. Alors les photos ne sont pas d'excellente qualité parce que c'était pris il y a longtemps. Que pour prendre une photo il y a longtemps, on se traînait 50 kilos de matériel et on bougeait plus pendant 48 heures pour espérer pouvoir faire une photo. Voilà, donc il explique.
Est-ce qu'il y a le grand pingouin en photo?
Non, non, non.
En 1844.
Ouais, c'est des espèces, c'est là où c'est d'autant
plus. La photo,
plus,
je sais pas. 1844, il devait y avoir des photos, hein. Il y en avait au Far West.
Je sais pas, ouais, peut-être. Ouais.
Là, c'est d'autant plus rageant, en fait, quand on regarde ce livre.
C'est bon, cette culture, il y en avait au Far West.
C'est d'autant plus rageant que les espèces, en fait, il y en a certaines qui se sont éteintes dans des zoos il y a peu de temps, enfin, jusqu'en 2009. Donc,
par exemple.
Alors en 2009, je ne sais plus quelle.
Je ne sais pas, non, mais si tu en as en tête, hein, sinon ce n'est pas grave.
Non, ben voilà, ouais, y avait la grande chauve-souris à queue courte, c'était assez récent. Hein, tu vois, il y a même une photo en couleur, évidemment, 2011.
Ok, voilà. Ah ouais,
non,
2011.
Pardon, je te dis des bêtises. C'est le gars qui l'a pris en photo qui est mort en 2011. 67.
L'animal disparu.
Et du 2011, coup, il explique aussi les causes des disparitions.
Ouais, 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 il explique un petit peu les causes et surtout la cause de l'extinction de la dernière espèce. C'est-à-dire que par exemple, tu vas avoir sur le pigeon migrateur, il va expliquer que c'est beaucoup de chasse parce que les pigeons migrateurs, quand ils se déplaçaient, c'était 3 jours de nuée de pigeons, donc de fientes, de toutes les maladies que ça peut transporter, et ça détruisait absolument toutes les cultures, donc la surchasse. Mais après, il explique, et c'est ce qui met vraiment les larmes aux yeux, c'est l'extinction de la dernière espèce. Vraiment, de dire, voilà, les deux derniers pigeons voyageurs, voilà, bim, c'est là, à cet endroit-là, et pour ça qu'il est parti. Donc
c'est un peu dommage parce que toute cette extinction de tous ces animaux vient bien avant, et c'est avant qu'il fallait, et pas sur le dernier couple vivant.
C'est sûr, c'est ça.
Mais c'est ce qu'on retient évidemment parce que ça fait appel à des ressentis.
Et là, t'as envie de découvrir ces espèces-là, de dire mais c'est peut-être qu'il en reste une cachée, tu vois, dans un coin. Mais non, et surtout après, il explique bien que sur Internet, quand on recherche parce qu'on est tenté d'aller sur Internet regarder. Je ne sais pas, par exemple, qui c'est qu'on a là ? Hop, le phoque moine des Caraïbes. Si vous allez sur Internet, vous trouverez peut-être même des articles qui vous diront que non, le phoque moine des Caraïbes, il y a une espèce qu'on vient de retrouver dans un coin caché qui existe encore. Et en fait, il dit, attention, c'est faux. On donne des faux espoirs sur, sur la réintroduction, enfin pas la réintroduction, mais la redécouverte de ces espèces, il dit c'est faux. Elles c'est sont par éteintes,
erreur ou c'est par manipulation que...
ben, souvent, je sais c'est pas les dernières
là-dessus, mais...
ben, souvent, c'est des... ils étaient dans des eaux.
Quand même, non, mais pourquoi, pourquoi on a ces fausses informations là
Pour lancer des fausses.
Tu vois, de dire voilà,
pour contrer le discours. Est-ce qu'il n'y a pas un lobbying anti.
Ouais.
Tu vois, enfin, de tous les gens qui pensent que non, c'est pas vrai. Les espèces ne sont pas, oui, sont pas éteintes. Je pense qu'il y a de ça. Il y a, de
bah,
ça
y a des climato-sceptiques. Voilà. Il doit y avoir, ouais, des, je ne sais pas comment on appelle ça, des nécro-animaux-sceptiques. Oui, je sais pas.
Après, le fait est que c'est la réalité. Là, il y a 50% des animaux sur Terre qui ont disparu. Hein,
ben, ce matin, 10 sur, ans, ouais, sur les infos de 48 FM, tu entendais parler que 70% d'insectes à moins dans le monde. Quoi, c'est énorme.
Ah bon.
Bah, regarde ta voiture quand tu rentres de vacances. Est-ce que tu as vraiment besoin d'enlever les moustiques et tous les insectes sur la carrosserie?
Moi, je ne les enlève pas.
Oui, parce qu'il y en a moins.
Il y en a moins qu'avant.
Mais avant, c'était obligé d'arrêter tous les 5
km. Même que les lucioles, par exemple, avant, on en voyait souvent et là, on n'en voit plus. Hein.
Voilà. Et c'est vrai que là, du coup, c'est vraiment le livre. C'est, on se dit, au départ, ça va être des animaux anciens. Donc, on le lit sans s'y intéresser. Puis quand tu vois les dates... Oh, mince, quoi.
Enfin, ça fait un choc. Ouais.
Voilà, on se dit mince, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour les garder. Et puis en fait, non, c'est se dire voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour garder celles qui sont encore là.
Et est-ce qu'on veut déjà faire
est-ce
maintenant
veut,
parce
voilà,
que
ouais,
c'est ça le problème aussi.
Voilà.
Et ouais, c'est tout le problème. De... Après, en ce moment, sur les dernières années, on commence à se rendre compte vraiment des problèmes que de la pollution. Des gestes
tard,
que les gestes humains, c'est déjà trop tard, mais on voit qu'il y a quand même une prise de conscience qui est à mon avis pas assez rapide et pas assez prononcée, mais ça commence. Bon, après le problème c'est que il y a certains états très puissants qui élisent à leur tête des gens incompétents voire complètement débiles et qui vont pas travailler sur le sujet, mais bon, on verra à l'avenir, mais chacun peut peut-être
et
y
après,
faire.
Et après oui, notamment avec des livres pour enfants, d'informer les enfants, la nouvelle génération, je pense que c'est important.
Oui, c'est exactement ça. Tiens, mais c'est bien
sans
joué,
transition.
Ça, Héloïse. Elle m'amène à mon livre, mon grand livre que j'ai lu il y a quelques semaines et que j'ai décidé de garder parce que je l'aime beaucoup et que mes enfants l'aiment beaucoup également. Il s'agit d'un livre d'Anouk Bois-Robert et de Louis Rigaud aux éditions Helium, que je ne connaissais pas. Très belle maison d'édition, Helium.
Super,
qui s'appelle « Dans la forêt du paresseux ». C'est un pop-up. Vous savez ce que c'est un pop-up, mesdemoiselles? Vous le savez, vous?
Oui, on en a déjà parlé.
Moi, j'ai Barbe Bleue de chez Helium en pop-up.
Ah, voilà. Un pop-up, c'est un livre en 3D, on peut dire ça, quand on
oui,
ouvre les
ça.
Pages. Voilà, c'est en 3D. Sur le thème du paresseux. Alors, que peut faire un paresseux, sinon sommeiller?
Se curer les ongles.
Non, il sommeille. Non, et après, il se réveille des fois pour manger, mais il ne fait pas grand-chose. Alors, ce paresseux dans ce livre est indifférent, bien sûr, au changement accéléré de la forêt qui se dépeuple, car elle est attaquée par toutes sortes d'engins qui vont jusqu'à sa destruction intégrale. Lui sommeille en toute innocence. Donc, c'est un pop-up qui est très beau, hein, qui est assez spectaculaire, qui illustre la splendeur de la forêt amazonienne, tout en mettant en scène sa vulnérabilité de cet écosystème, sans défaitisme toutefois. Donc, chaque page en ouvre et on voit un paresseux présent sur la page où on demande à son enfant de retrouver le paresseux. C'est un peu où est Charlie. Lui ne bouge pas, bien sûr, tandis que les machines détruisent son habitat petit à petit. Et à la fin, il ne reste que le paresseux. Et même, il ne reste plus de paresseux car l'homme a tout dévasté. Et c'est un livre qui termine quand même sur une note positive. Je vais peut-être pas la dire.
Bon, tu peux spoiler, je pense.
Tu crois?
Je pense que tu peux spoiler.
Bon, ok. À la fin, le lecteur actionne une petite tirette qui fait surgir de petites pousses et renaître l'espoir, car à la fin, il y a un homme qui vient et qui se décide à planter des graines pour que la forêt repousse. Et la forêt repousse avec, sur une branche, notre cher ami le paresseux qui est revenu dans son habitat naturel, car il y a trouvé de la nourriture.
Magnifique.
Alors c'est magnifique, les couleurs sont belles, on voit beaucoup de vert, de bleu bien sûr, qui laisse place au blanc au fur et à mesure, aux blessures du jaune et rouge des grues et des camions qui contribuent en fait le tout à rendre sensible cette dégradation qui est inéluctable comme ça se passe actuellement en forêt amazonienne, car ça se passe en forêt amazonienne. Et il y a des informations à la fin, Valérie, tu peux me donner le livre ou lire, voilà, à la fin, des informations, tout est vert, tout est vide, dans la forêt du paresseux. 13 millions d'hectares de forêt ont disparu entre 2000 et 2010. Cette destruction menace la survie de nombreuses espèces, parmi lesquelles le paresseux à crinière. Mais il n'est pas encore trop tard pour empêcher ces ravages. Voilà, donc il y a quand même une note d'espoir. C'est très beau, c'est très intelligent, ça plaît aux enfants et ça plaît aussi aux adultes, ma foi.
Oui, c'est pour les tout petits. Hein, même. Enfin, voilà, c'est vrai que les petits, souvent, ils aiment bien les engins. Donc là, il y a des engins, effectivement. Et
des engins méchants.
Des engins méchants.
Alors, il y a très peu de textes. Il y a un peu de texte à chaque fois. Voilà, où ils disent « Le paresseux se balance tendrement dans les feuilles, le vois-tu ?» Donc, on le cherche. Il n'y a pas que des paresseux. D'ailleurs, il y a des singes,
des perroquets.
Il y a des hommes qui sont assis au bord d'un arbre en train de sommeiller ou de se reposer. Voilà.
Et comment ton fils a réagi ?
Ah, mais il a beaucoup aimé.
Il a beaucoup aimé, ouais.
Mmh. Il a beaucoup aimé. À 4 ans et demi, il ne se rend pas encore compte du vrai message de l'urgence de la situation.
Bien sûr, mais ça l'informe quand même un peu.
Mais ça l'informe.
Que sinon, ça l'effraierait s'il y a 4 ans et demi. Il ne faut pas l'inquiéter.
Oui, oui, non. Mais je veux dire, il pourrait se dire, ah bon, autant d'hectares qui partent en fumée, etc. Ça, où est-ce que ça se passe ? Voilà, on est à cet âge-là.
Pourquoi tu fais rien, papa, pour arrêter tout ça ?
Voilà, mais nous, on a une forêt qu'on ouvre la fenêtre, donc on ne se rend pas compte, tu vois. Donc voilà, excellent livre à conseiller. Et ben, tiens, dans les écoles aussi, primaires ou maternelles, pourquoi pas ? On va en parler d'école tout à l'heure avec Pauline. Voilà. Allez, une chanson maintenant, une chanson de Daniel Balavoine, c'est ça, Louise ?
Oui, l'Aziza.
L'Aziza.
Nous avons perdu 50% de nos auditeurs.
حبيبتي شرفي لا ما قدروا شي وطلعت يا ناس مغلومة يا ناس يا عزيزة ترياحي لا ما قدروا شي حبيبتي تلحلاحي لا ما قدروا شي وسمعت يا ناس مغلومة يا ناس لا ما قدروا شي
Vas-y, Valérie. Plaît-il ?
Non, j'étais en train de dire quand même l'écologie, c'était un sujet important.
Non, tu disais pas ça du tout. Bizarre ta version de d'Aziza de Daniel Balavoine. Daniel Balavoine.
Je crois que je me suis trompée, oui.
Voilà, donc c'est quoi de la musique électronique iranienne?
Oui, c'est ça, c'est In Between Aziza et le titre de la chanson c'est Bahar Bahar. Je sais pas si je le prononce bien, mais voilà.
OK. Et moi, je pensais à On se retrouvera de Francis Lalanne tout à l'heure quand je parlais de chansons qui parlent de Même la mort ne nous séparera pas dans ton grand ordinateur, blablabla. Voilà, très bien. Allez, oubliez ce que je viens de dire, n'y pensez plus. Tiens, Popo qui est en train de finir sa part de pizza.
C'est bon, je peux y aller.
Ah ben allez, c'est parfait, allons-y.
Non, en plus c'est bien, on était sur les petits, sur les enfants et on vient de les sensibiliser avec notre petit paresseux. Et ben maintenant, on leur donne des petits conseils. Avec le guide du petit écolo, trucs et bons gestes pour la maison. Donc c'est un petit livre de chez Actes Sud Junior avec des illustrations. Il y a pas mal de textes et en fait c'est des. Ils font à chaque fois un petit point sur les pièces de la maison et les habitudes qu'on a dans ces pièces et comment dans chaque pièce on peut faire des efforts pour protéger un peu la planète, pour faire des économies, pour faire attention, pour bah voilà, pour limiter la surconsommation de tout le temps. Et ce qui est sympa, c'est que c'est des vrais conseils que les enfants peuvent vraiment mettre en place. Par exemple, des trucs bêtes, mais que je pense qu'on voilà que là on est dans une ère où il faut les répéter tout le temps. Tu te laves les dents, tu coupes l'eau pendant que tu te brosses les dents. Tu sors d'une pièce, t'éteins la lumière. Voilà des choses faciles et évidentes, mais qui finalement sont pas si ancrés encore chez eux, je pense.
C'est vrai, même chez des adultes, hein, parfois. Hein. Moi, j'ai des amis qui éteignent jamais les lumières, ça me rend dingue. Quoi.
Et ouais. Et comment tu veux que les enfants après le fassent?
Ah ben oui, mais ils n'ont pas d'enfants.
Les télés allumées sans arrêt, voilà. Et puis en allant toujours un petit peu plus loin, c'est-à-dire on part d'une base facile, voilà, j'éteins la lumière quand je sors de ma chambre, mais quand j'ai déjà cette habitude-là, bah peut-être que le soir, je peux dire à tout le monde dans la maison d'éteindre son portable et sa tablette, parce que finalement, un portable allumé, il se vide de sa batterie, il faudra le recharger demain. Et enfin voilà, et c'est des tas de petits conseils comme ça, voilà, des conseils même après à donner à leurs parents. Donc j'imagine bien les enfants tout fiers à aller voir les parents et dire bon, on est en automne, maman, il faut pas acheter des clémentines, faut acheter du chou-fleur ou
voilà. Ce genre de conseils qu'ils donnent.
Eh ben dis donc, et on ben, va pas l'acheter ce livre.
Eh ben si, mais si, il faut leur acheter parce que c'est sympa et en plus ils vont, je pense que s'ils prennent même 2-3 conseils dans le livre et qu'ils arrivent à les mettre en place, ils vont être fiers. Et je pense que voilà, on n'a pas l'impression, les enfants, ils ont, enfin les jeunes d'ailleurs, je pense, peut-être même beaucoup d'adultes, comme on disait tout à l'heure, on a l'impression que tous ces petits gestes qu'on peut faire à la maison, on se dit bon, ça aura pas un impact, voilà, trier mes déchets, bon, c'est pas grave si je mets une boulette de plastique dans ma poubelle de tout venant. Bah non, c'est pas très grave effectivement, mais si tout le monde fait pas gaffe sur une petite boulette, si tout le monde oublie ponctuellement d'éteindre une lumière, c'est pas le drame du siècle, mais c'est ça de moins et
ça contribue voilà à ce qui est en train de se passer, donc autant faire l'effort, surtout que c'est pas des gros efforts quand
même. Voilà, c'est ça qui est bien avec ce livre là, c'est que on n'est pas en train de, alors je critique pas du tout la famille zéro déchet, mais on n'est pas en train de dire devenez une famille zéro déchet, ou ce qui est très bien mais qui est inatteignable je pense pour beaucoup de gens, ou alors qui demanderait énormément d'efforts, et là c'est des choses faciles. Et je trouve que c'est l'atout de ce bouquin, même si c'est des conseils un peu évidents, un peu dans la mesure où on laisse un enfant le lire tout seul ou qu'on lui lit. Mais je trouve que c'est très sympa parce que c'est des choses qu'il pourra faire et il aura vraiment l'impression de faire des bonnes choses et il aura raison d'ailleurs.
Tu m'as ouvert les yeux, Pauline. Non mais c'est vrai. Sur la boulette, pas jeté. Te dis j'en ai jeté 10 à côté, la flemme.
Eh ben ouais.
C'est pas beau. Guy du petit écolo, c'est quel âge? 8 ans, 9 ans plutôt, non? 10 ans? S'il est seul, j'imagine.
Ouais, dès le CP, je dirais. On peut leur donner 2-3 petits conseils. Après, on leur.
Et ça se lit aux enfants plus jeunes ou c'est un peu barbant? C'est pas très.
Je pense qu'il faut le rendre un peu plus lui. peut-être plus ludique, parce que bon, d'accord, ça va être voilà, le meilleur moyen de réduire sa consommation, d'éviter de gaspiller, d'utiliser des emballages inutiles. Bon, c'est du... Ça part pas de... Il y a une explication, en plus un contexte à chaque fois à la base. Donc pour les tout petits, c'est peut-être un peu mmh, difficile.
Oui, non, à partir du CP, je pense que c'est bien, ouais. Mmh.
Donc très sympa. Un bon petit livre.
Ok, super. Mmh. Parfait. On passe à qui? Tiens, Valérie, non, elle fait la tête.
Oui,
on passe à Héloïse.
Non, je ne fais pas la tête. Si j'étais en train de penser sur les livres zéro déchet pour faire le lien avec Pauline avant qu'Héloïse prenne la parole. En fait, nous, on a un nom qui s'appelle La Famille Zéro Déchet. Alors, je ne sais plus quelle est la maison d'édition.
C'est vrai que tu as fait partie des familles zéro déchet, du conseil départemental.
Tout à fait, tout à fait. Mais hélas, j'allais dire, on a perdu des habitudes, mais on en a gardé d'autres. Donc, c'est toujours bien aux enfants. Et les enfants sont tellement plus faciles à modeler pour le mettre en place. Mmh. Justement, de la boutelette de papier, on ne se pose plus la question de savoir où on va la jeter, vu qu'on n'a plus de petites boulettes de plastique.
Ah bon ? D'accord.
On essaye.
T'as pas de pot de yaourt ?
Non, on a une yaourtière.
Ah.
Voilà.
Maline. Hein.
Oui.
Ok.
Héloïse.
Héloïse, à toi.
Alors.
Je vais vous parler d'une yaourtière. Un livre, 250 pages sur une yaourtière.
C'est le livre de recettes.
Alors, si je vous dis cachalot, vous répondez quoi ? Ça vous fait penser à quoi ?
Moby Dick.
Oui, bravo.
Merci. Alors... Excusez-moi les filles.
Je me suis
un peu emballée.
Donc, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle, non pas Moby Dick tout court, mais Le Retour de Moby Dick, de François Sarano, chez Actes Sud. Une nouvelle collection qui s'appelle Monde Sauvage pour une nouvelle alliance et qui parle principalement d'écologie et de biodiversité. Donc voilà, le sous-titre, c'est donc Le Retour de Moby Dick ou ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes. Donc l'auteur François Sarano, c'est un océanographe. Il a été plongeur sur le Calypso aux côtés du capitaine Cousteau. Il a travaillé aussi aux côtés de Jacques Perrin sur le film Océan qui avait bien marché à l'époque. Et donc depuis des années, il observe le même groupe de cachalots vers l'île Maurice. Voilà. Donc le cachalot, au premier abord, ça ne fait pas rêver. C'est un gros animal qui a mauvaise réputation, de par Moby Dick d'ailleurs, de par le roman d'Herman Melville. Et pourtant, c'est un animal vraiment passionnant, qui a une vie incroyable et qui est un des plus intelligents mammifères marins, on va dire. Donc, on pense à Moby Dick et je vais vous expliquer un petit peu cette histoire de Moby Dick et comme quoi on a été un peu trompé par toutes ces grandes chasses à l'époque, etc. Parce que on voit le cachalot comme très violent, exterminateur. Dans le roman de Moby Dick, c'est le capitaine Achab qui le poursuit et une histoire de vengeance. Et le cachalot est très agressif.
Mais il n'y avait que Moby Dick qui était agressif dans Moby Dick.
À l'époque, en fait, oui, dans Moby Dick, il n'y a que Moby Dick qui est agressif. Mais à l'époque, il faut savoir que les marins qui partaient chasser le cachalot, ils avaient extrêmement peur parce que c'était réputé comme un animal violent, qui détruisait les bateaux, qui mangeait les hommes. Enfin, c'était vraiment cette réputation, assez horrible. Donc, pourquoi on tuait le cachalot à l'époque ? C'était pour le liquide qui est présent dans ce qu'on appelle le melon, c'est-à-dire une espèce d'escroissance sur sa tête. C'est un liquide qui s'appelle le spermaceti et qui servait comme combustible pour les lampes. Alors, Valérie,
j'ai rien dit pour une fois.
Donc, c'était un véritable carnage et qui s'arrêta en fait quand on inventa l'essence pour les lampes en fait à pétrole, etc. Voilà, mais c'était déjà trop tard.
Enfin,
pardon.
Donc, à l'époque, comme je disais, l'animal était craint et avait la réputation d'un monstre marin sans pitié. Et donc cette réputation est totalement fausse au vu des récentes études qu'on a menées en fait sur ce fabuleux animal. Parce que lorsque l'homme a commencé à oser plonger aux côtés de l'animal, on a découvert des choses assez incroyables sur son langage, sur la société qu'ils mettent en place, sur les jeux qu'ils font, sur des pratiques sexuelles assez étonnantes. Donc c'est un véritable trésor de découvrir cet animal vraiment étonnant. Donc par exemple, ils vivent en société matriarcale. Les jeunes cachalots sont entourés exclusivement de femelles qui leur transmettent leur expérience, qui leur apprennent plein de choses, qui les éduquent pendant plus de 15 ans.
Bien ça.
Les jeunes cachalots ne sont jamais seuls. Les femmes se relaient pour aller pêcher dans les grandes profondeurs. Et pendant qu'elles vont pêcher, il y a des femelles qui gardent en fait les jeunes à la surface.
Et papa cachalot, il est où là pendant
Alors, ils sont très solitaires et ils vont.
Ils regardent du foot. Hein.
Ils sont tout seuls, ouais. Ils vivent pas en groupe, les mâles. À part quand, voilà, quand ils sont jeunes et qu'ils restent, mais après, ils s'en vont, ouais.
Donc, je vais rembobiner, donc, Héloïse qui nous demande de prendre exemple sur le cachalot.
Oui.
Voilà. Vas-y,
merci,
continue.
Héloïse.
C'est très bien. Tu as totalement raison. Je suis totalement d'accord avec toi.
Donc, leur mode de perception aussi est extrêmement éloigné du nôtre. Et donc, grâce à l'organe exceptionnel dont j'ai parlé, c'est-à-dire le melon, qui
et
est
dedans,
sur le devant de la tête et qui
comment
contient le liquide qui s'appelle le spermaceti.
Voilà, le spermaceti.
Donc, en fait, grâce à ce melon, ils envoient des ondes dans l'eau qui peuvent aller extrêmement loin. Quand il y a un objet, en fait, les ondes se répercutent, par exemple, sur un calamar ou sur un bateau, ou voilà. Et les ondes leur reviennent. Et ils peuvent analyser ce qui leur revient de manière très précise au point qu'ils savent exactement la taille, le poids de ce qui se trouve à des dizaines de mètres et qu'ils ne voient pas avec leurs yeux,
mais ça, c'est
mais
vrai
avec
tout,
les ondes.
Pour tous les animaux, enfin pour de nombreux animaux marins.
Ah non, non,
le
parce
requin,
que...
la baleine, tout ça, c'est pareil, c'est sous forme d'ondes qu'ils envoient qui se répercutent,
bah,
qui leur reviennent.
Après, le melon est quand même assez exceptionnel comme truc, c'est vraiment très précis comme analyse. Ils ont
d'accord.
vraiment
ah
une
oui,
vision,
c'est peut-être plus précis que les
une
autres
vision
animaux.
Très okay. précise de ce qu'il peut y avoir. Même au niveau de la matière de l'objet qui se trouve assez loin. Donc ça, c'est assez impressionnant. Après, bon, je pourrais vous raconter des dizaines d'histoires parce que le livre, on est truffé en fait d'anecdotes et d'histoires vraiment passionnantes sur ça. Par exemple, voilà, ils font preuve d'une incroyable solidarité quand un ennemi les attaque. Ils ont un sens de la famille aussi impressionnant. Ils ont de l'organisation, ils ont un langage très complexe, ils savent prendre le temps de jouer, ils adorent se faire des câlins, enfin voilà, c'est des animaux assez sensibles aussi. Une autre petite histoire pour finir, si j'ai le temps.
Bien sûr.
Ouais. Tous accrochés à tes lèvres.
Ouais, là.
Donc un jeune cachalot qu'ils ont nommé Elliot et qui suivent en fait depuis des années pour prouver un peu la curiosité et l'intelligence de ces animaux. C'est un petit cachalot en fait qui est le plus curieux de tous, c'est-à-dire qu'il a toujours été vers les humains. C'est le seul en fait qui montre en fait cette curiosité. Et un jour, alors qu'il plongeait avec un groupe de personnes, ce cachalot, Elliot, ce jeune cachalot vient vers eux, mais il a un comportement vraiment qu'il l'avait jamais vu faire ça. Il se comporte très bizarrement, il ouvre la bouche, il se tourne dans tous les sens, ils ne l'ont jamais vu faire ça, donc ils trouvent ça assez étonnant. Et ils se demandent en fait ce qu'il a envie de communiquer, de dire quelque chose par ce comportement. Et en fait, ils se sont aperçus qu'il avait un hameçon coincé dans la gueule. Et du coup, par ce comportement, il a voulu signifier à l'homme qu'il avait besoin d'aide. Enfin, il faut quand même avoir une conscience de soi-même, une conscience des autres pour en arriver à aller demander de l'aide à quelqu'un d'autre de cette manière. Donc je trouve ça vraiment, enfin, c'est vraiment impressionnant, quoi.
D'accord.
Et c'est touchant.
Vu qu'on parlait d'extinction des espèces, tu sais où on en est à peu près au niveau du cachalot ?
Je pense pas qu'ils soient en voie d'extinction maintenant. Après, d'extinction, ouais. Pardon.
Ils doivent pas être.
Après les grandes chasses, il y avait eu un problème, mais depuis que la pêche et la chasse a été interdite. Ça va beaucoup mieux, il y en a plus.
Enfin, la pêche à la baleine est interdite, ça n'empêche pas.
Oui, mais ça reste, du moment que ça reste interdit, après c'est des braconniers, mais ils ne mettent peut-être pas les espèces en danger de façon aussi massive.
Paul Watson ne te dirait pas ça.
D'accord. Bon, du coup, voilà, pour finir, il y a plein d'histoires fascinantes comme celle-ci. Je l'ai lu vraiment très avidement, j'ai lu ça comme un roman à suspense, ça m'a transportée. Et j'avais l'impression tout le long de ma lecture qu'on me confiait un incroyable secret, quoi. C'était une sensation vraiment, vraiment géniale et c'est un document à mettre entre toutes les mains curieuses parce que, voilà, même s'il y a un côté scientifique, c'est facile à comprendre et à imaginer. Donc, super.
Allez, parfait. Ouais. Merci, Héloïse. C'est Actes Sud. Toi, si on ne l'a pas dit, mais c'était chez Actes Sud aussi, Popo, le livre d'avant.
Oui.
Valérie.
Moi, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que va dire... Le monsieur Watson.
Pas
tant pis, je vais vous parler de monsieur Audubon. Vous connaissez tous monsieur Audubon ?
Moi, je connais Audubon parce qu'il a fait une des seules gravures qui existent du grand pingouin.
Voilà. je crois qu'elle y est à la fin du livre d'ailleurs.
Moi, je ne le connais pas.
Audubon, c'est assez extraordinaire parce qu'à la base, il s'appelle Jean-Jacques.
mais tout le monde le connaît sous John James. Enfin, tout le monde le connaît aux États-Unis, vu que c'est quand même le français le moins connu en France, mais le plus connu aux États-Unis. Bon, faut savoir qu'il est né en 1785, donc il est peut-être un peu plus âgé que nous, et c'est certainement pour ça qu'on ne le connaît pas. Bon, il était ornithologue, naturaliste et peintre. Bon, il est né sur une île, l'île de Saint-Domingue. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas très connu en France, mais il faut savoir qu'il a été, aux États-Unis, il est très connu parce qu'il a été précurseur, justement, de tout ce qui va être découverte de l'ancêtre de l'écologie. Il a créé, il y a eu la Audubon Society aux États-Unis qui étudie, enfin, c'est un peu le condensé où on va retrouver à l'intérieur la LPO, enfin, toutes les associations de protection des animaux vont être regroupées sous cette Audubon Society, donc aux États-Unis. Ce bouquin, en fait, c'est une biographie, une BD biographie, ça se dit ?
Oui, ça se dit, oui.
Allez, une BD biographie, j'aime bien le mot. Donc, de ce monsieur qui retrace un petit peu sa vie au tournant, évidemment, écologique. Et ce tournant, lui, il l'a eu, il était un enfant illégitime, en fait, il a eu ce déclic. Il était chez lui, il observait beaucoup tous les animaux, la nature, et notamment tous les animaux à plumes et qui volent. Il trouvait ça étrange que chaque année, au même moment, reviennent les mêmes espèces, mais on n'avait pas à l'époque cette connaissance des migrations ou autre. Donc, il a commencé à attacher un petit ruban au pied d'un oiseau. Et il a vu l'année d'après que c'était bien le même oiseau qui revenait, puisqu'il avait toujours le ruban. Et au même temps, en fait, il avait tellement la tête dans les nuages à regarder ses oiseaux. Bon, ses affaires ont capoté. Il essayait d'être homme d'affaires comme son père. Et il s'est mis corps et âme dans la découverte de ces oiseaux aux États-Unis. Et on le suit à travers le livre dans toutes ses pérégrinations à la découverte des espèces. Alors, les puristes vont crier au scandale en disant « Ouh, mais il prélevait beaucoup d'espèces animales, ouh, c'est pas bien ». Effectivement, c'est pas bien, mais en 1795 ou 1810, est-ce que, très sincèrement, il pouvait se rendre compte que prélever 50 pivers à bec d'ivoire, c'était dangereux pour l'espèce ? Non, il ne le savait pas. Pour sa défense, voilà, je me fais avocat d'Audubon. Et en fait, chaque fois, il prélevait pas mal d'espèces. Il avait une technique bien à lui. Il tirait avec du petit plomb. Après, il les recousait pour leur donner la même posture qu'ils avaient dans la nature pour pouvoir les peindre. Et il s'était mis un peu à dos toute la société scientifique de l'époque parce que, justement, il représentait les animaux dans leur état naturel, en train de chasser, en train de se reproduire, en train de vivre. Alors qu'à l'époque, un scientifique se devait de représenter l'animal de façon très... scientifique, en fait.
Oui, sans décor, sans fantaisie.
Oui, les planches habituelles qu'on voit tout le temps.
Qu'on peut voir. Donc, du coup, il n'arrivait pas à être publié, en fait, que les gens publient ses planches. Il est reparti donc en Angleterre, où là, par contre, il a eu du succès. Il a été publié. Bon, il est reparti aux États-Unis. Bon, après, ça, on touche à la fin du livre. Mais il est devenu une référence, justement, par rapport à toutes ces toiles. Et cette BD, il rencontre Darwin à un moment donné. Ça, c'est assez fabuleux quand il est en Angleterre. Ce petit jeune étudiant vient le voir en lui disant « Moi, j'ai une théorie. Les ossements qu'on a retrouvés, je pense qu'il y a une évolution de l'espèce. Est-ce que toi, en étudiant les oiseaux, tu as l'impression que l'espèce, elle évolue ?» Parce que je suis convaincue qu'il y a, il y a quelque chose avec l'évolution des espèces. Et c'est assez... Ce petit clin d'œil est assez, assez fabuleux. Et voilà, donc ce livre, son histoire est passionnante. Ce qu'il a fait, moi, j'ai trouvé ça assez passionnante. Alors après, je suis peut-être pas assez sentimentale avec les animaux, mais je me dis que des fois, il faut en prélever quelques-uns pour mieux les connaître.
Bah après, à l'époque, c'était ça, parce qu'il n'avait pas d'appareil photo, il n'avait pas moyen, en fait, de... Donc, oui, il serait qu'il tuait les oiseaux pour pouvoir les reproduire, mais il a fait vraiment avancer les connaissances, en fait, en ornithologie. Et il est même devenu obsédé. Enfin, il était vraiment obsédé par ça. Ça l'a rendu fou, en fait. Il voulait collecter et dessiner toutes les espèces d'Amérique. Et ça lui a pris un temps fou, et au dépit de sa vie de famille.
Voilà, une vie, ça lui a pris une vie. Et c'est, voilà, il s'est heurté à beaucoup de choses. Et c'est passionnant. Sa vie est passionnante. Et j'allais dire, c'est un bon tremplin pour entrer en écologie là-dessus. Dans le sens où c'est que sa vie, ce qu'il a fait, le fait qu'il se soit mis corps et âme dans cette recherche, ça donne envie de nous aussi, à notre petit niveau, d'en chercher plus. Et c'est d'autant plus poignant quand on lit cette BD qu'il parle d'espèces qu'on retrouve. Enfin, moi, le premier livre dont je vous ai parlé, Animaux disparus, ben, en fait, il y a quelques espèces que je retrouve dans le livre d'Audubon. Et voilà, et ça me rend triste.
Ça raconte sa vie chose. De A à Z,
non,
ce livre,
à part
non,
de son entrée en écologie, enfin, de sa découverte vraiment majeure de la migration.
Jusqu'à quand?
Ben, jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin.
Ouais.
Ah, c'est bien quand même, ça couvre.
Ouais, non. D'ailleurs, ça couvre tout. Et c'est beau, les dessins sont. Enfin, moi, je trouve que les dessins sont très beaux du livre. Hein. C'est passé planche dans la BD. Le dessin est beau, les émotions. Puis on ressent, c'est l'époque aussi de l'esclavagisme et autres. Enfin, c'est vraiment très, très, très bien fait. Ouais.
Ok. Voilà. Merci Valérie. D'ailleurs, en parlant de BD, j'ai reçu mon code d'accréditation pour le Festival d'Angoulême.
Parfait.
Au passage, Popo.
Eh ben, c'est très bien que je finisse parce que du coup, là, on a passé toute l'émission à vous convaincre qu'il fallait vous battre pour la biodiversité, pour la planète, etc. Eh ben, le capitaine Paul Watson est là pour vous guider.
Merci, Paul.
Ah, on l'attendait. Hein.
Alors, Paul Watson, qui c'est? En fait, c'est d'abord un des cofondateurs de Greenpeace. Alors, pas un des principaux, mais il a participé à la fondation de Greenpeace. Donc, il a participé, on va y arriver, à énormément d'actions avec Greenpeace, qui va quitter dans les années 70 parce que bon, il y a un changement de président, il est plus forcément d'accord avec le fonctionnement de Greenpeace et il va créer une fondation que vous connaissez sûrement qui s'appelle Sea Shepherd, les bergers de la mer. Donc Sea Shepherd va acheter un bateau. Et va décider de mener des actions, notamment contre les chasses illégales de baleines, de phoques, etc. En fait, le principe de base qui a évolué un peu peut-être ensuite, c'est bon, d'abord de faire de la recherche, des enquêtes, et ensuite de s'assurer de l'application des lois de protection de la vie marine. Voilà, c'est donc Paul Watson, c'est cet homme-là, et il est sur le terrain, hein, c'est enfin, il est sur tous les terrains d'ailleurs, il est là partout, hein.
D'où tout à l'heure, quand je disais des fois, ça reste des quelques braconniers qui font. J'imagine que par rapport aux baleines des îles Féroé, enfin aux dauphins des îles Féroé,
voilà.
Il va en parler.
Ah ben voilà, ouais. Il parle. Alors, c'est un livre très particulier parce que justement, il va pas chercher du tout à nous convaincre qu'il faut mener ce combat. Alors, il y a une toute petite introduction où il va nous faire remarquer qu'on est trop centré sur nous-mêmes et notamment sur, j'ai un passage qui m'a secoué puisque en fait il nous parle du fait qu'on protège l'œuvre humaine plus qu'on protège la terre elle-même. Et donc je vais vous lire un petit passage. Il nous dit bah, vendre une toile de Van Gogh pour 60 millions de dollars comme cela s'est passé il y a peu est une obscénité. L'artiste n'en a pas profité. Le japonais qui l'a acheté a dévasté des millions de kilomètres carrés de forêt tropicale dans le monde entier dans le but de s'enrichir. Pour pouvoir acheter un peu d'hydrocarbures colorés étalés sur une toile. L'artiste a été dévalorisé par cette destruction avide de la complexité biologique. Voilà un peu le ton de Paul Watson. Il y va pas par quatre chemins. Pour lui, la priorité, c'est la Terre, rien d'autre. Il faut arrêter de penser qu'à l'humain, de penser d'abord à l'humain. Pensons espèces en général, pensons Terre, pensons plantes, pensons animaux. Et voilà, les lignes de Nazca sont plus importantes que la roche qui la compose. Enfin voilà, c'est juste l'introduction. Ce livre, il s'appelle Earth Force, donc la force de la Terre, et a pour sous-titre en petit bandeau comme tout le monde adore ici, Manuel de l'éco guerrier. Et alors là, c'est pas un faux sous-titre, c'est vraiment un manuel de guerrier. C'est-à-dire qu'il va nous présenter d'abord trois personnages. Sun Tzu, qui a écrit L'art de la guerre, qui est un manuel de stratégie chinois-japonais, j'ai un doute là.
Chinois.
C'est Machiavel, hein, L'art de la guerre.
Non.
Sun Tzu, c'est sûr, a écrit L'art de la guerre.
Ou c'est Sun Tzu, peut-être.
Machiavel, c'est le prince. Un livre de stratégie.
Aussi. Oui, mais il n'a pas écrit L'art de la guerre aussi?
Je crois pas, non.
Ah, à vérifier.
Je ne saurais pas te dire. Bref, c'est le manuel du guerrier et ce qui traverse les âges. Hein. Personne ne le remet jamais en question. un document moins connu qui serait un approfondissement de cet art de la guerre qui est Miyamoto Musashi, le traité des cinq roues, donc là qui est un peu voilà un approfondissement de l'art de la guerre, et une étude de Marshall McLuhan sur les médias de masse et le fonctionnement des médias de masse. Et donc ce que fait Paul Watson dans ce bouquin, il s'inspire de ces trois choses, de ces deux livres et de cette étude et de sa propre expérience pour nous construire, nous lecteurs de ce bouquin, en tant que guerriers de l'écologie. Et quand je dis guerrier, c'est vraiment un manuel de guerre. Il va par exemple présenter les différentes sortes de commandements avec leur profil, nous dire ben voilà qui commande comment, les différentes sortes de si on ne veut pas être commandé, on peut être aussi à un niveau en dessous et soit s'infiltrer. Si on veut être infiltré, quel caractère il faut avoir, quel risque il faut prendre, comment contrôler les médias. Comme, enfin, c'est assez étonnant comme bouquin parce que il n'a pas été écrit pour convaincre. Enfin, moi, je m'attendais à lire un livre.
Un plaidoyer.
Voilà, qui essaye de me convaincre de défendre la Terre. Non, c'est un livre pour mener une véritable guerre.
C'est le passage à l'acte, en fait.
Voilà, c'est le vrai passage à l'acte avec de la vraie stratégie. Voilà, si je suis les conseils de son livre ici, moi, je rassemble un petit groupe de personnes et j'ai toute la stratégie pour mener un vrai combat pour. Empêcher la déforestation dans le coin, enfin c'est et c'est très étonnant.
Bah, après c'est vrai que Paul Watson sur le terrain, son association est réputée pour être assez cash, assez violente.
Oui,
et voilà après bon pourquoi pas, j'ai envie
et
de
alors,
dire. Ça se enfin on peut en débattre.
Il y a cette image là, mais ce qu'il faut noter c'est que alors d'après le bouquin que j'ai lu, jamais ils n'ont blessé qui que ce soit et jamais chez eux quelqu'un n'a été blessé. Voilà. D'après ce qu'il dit.
Ça, c'est bien,
oui.
Déjà.
Donc, c'est un manuel de guerrier, mais qui ne cherche pas à faire du mal, qui cherche à respecter.
À faire appliquer les lois,
tout simplement.
Parce que personne n'en tient compte, les lois maritimes, il n'y a pas de police maritime assez compétente pour faire le travail. Quoi, pour
assez
contrôler.
Présente, assez vive. Il raconte des épisodes de stratégie qu'il a mené. Il fait une vraie course aux baleiniers, aux...
Et on aime... Qui sont hors la loi, il faut le rappeler.
Oui, qui sont hors la loi, oui. Alors moi, j'aimerais lire plus sur sa vie. Ça m'aurait plu de lire sur sa vie, mais c'est très étonnant comme bouquin.
Alors juste au passage, L'ère de la guerre est un traité écrit par Nicolas Machiavel entre 1519 et 1520 et publié l'année suivante.
Mais il y a aussi cet auteur chinois.
Ah
oui. Ah, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas cet auteur. Sizu, t'as dit ?
Sun Tzu.
Le problème qu'il y a avec le Sea Shipper de France, là, c'est que les actions qui sont retranscrites au public, c'est pas forcément les actions qui sont faites contre les contrebandiers. C'est des fois les actions qui sont faites contre les traditions. Enfin, la dernière qui a été médiatisée, c'était les massacres des îles Féroé. C'est un grand débat sur lequel on n'a pas eu de fin d'accord, mais c'est de se dire voilà, est-ce que ceux qui font de la chasse donc assez, je sais plus si c'est des baleines ou des dauphins, c'est vrai que c'est assez horrible à voir, mais c'est une tradition. Est-ce que vraiment c'est eux qui mettent à mal l'espèce, ou est-ce qu'il vaudrait mieux pas aller chercher vraiment les vrais contrebandiers?
Lui, son avis est très clair.
Ouais, mais en tout cas, ils sont mis en lumière que quand ils font leurs actions.
Son avis est très clair, c'est l'homme n'a pas la priorité sur l'animal. Ouais. Peu importe le poids de la tradition et le poids de... Voilà. Et d'où leur présence dans ce genre d'événements. Il faut arrêter de se centrer sur l'homme et de penser homme d'abord.
Il ne doit pas aimer les corridas, notre ami Paul.
Je pense pas. Ouais.
Mais on ne va pas lui demander, vu qu'il est loin, il est dans la mer. En parlant de mer, tiens, dans 15 jours, dans 3 semaines, parce qu'il y a les vacances, dans 3 semaines, on va parler de mer.
Et de terre aussi.
D'océan, de terre, de Bretagne.
De Corrigan.
Et.
Parlons Corrigan.
De Queen Amman,
Lankou.
Voilà, on est en train de lire des livres, on va vous proposer ça, donc pas dans 2 semaines, mais dans 3 semaines, exceptionnellement. Ça vous va?
Ça nous
super.
Va.
On fait comme ça.
On prend 15 jours de vacances alors.
Voilà, 15 jours de vacances d'émission parce que on va travailler quand même chacun de notre côté. À part
moi, je vais en Bretagne.
Voilà, elle va nous ramener des bonnes histoires et des bonnes victuailles. Tiens, tu nous ramèneras
du Queen Yaman.
Une andouille.
Valérie, elle est mieux.
Ouais, parce qu'on l'attend depuis qu'elle nous l'a promis.
Ah, mais il y en a qui en ont mangé.
Allez, merci. Dans 3 semaines, ciao.
À bientôt.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.